Il y eut un moment dans l'histoire où être chrétien était un crime capital puni de mort dans l'arène. Vos ancêtres dans la foi furent traqués comme des terroristes, brûlés vifs comme des torches humaines pour illuminer les jardins impériaux et publiquement accusés de cannibalisme infantile. Mais 300 ans plus tard, contre toute logique militaire et probabilité, ils n'ont pas seulement survécu, ils ont conquis le trône de l'Empire qui avait juré de les exterminer. Dans ce documentaire, je vais vous montrer les 10 stratégies qui ont transformé une secte persécutée de pêcheurs illettrés en maîtres de Rome. Des codes secrets dessinés dans la poussière à la construction de 600 km de tunnels sous la ville. Et quand vous aurez terminé, vous comprendrez que la foi que vous portez aujourd'hui fut achetée avec du sang, des larmes et un courage qui défia la logique humaine. Pour comprendre l'origine de cette persécution, nous devons remonter dans le temps jusqu'à une nuit étouffante de juillet de l'an 64 après Jésus-Christ. Nous sommes au cœur de Rome, la ville la plus puissante de la planète. L'air est lourd, avec une odeur de vieux bois et la sueur d'un million d'habitants vivant entassés dans des ruelles étroites. Dans ce contexte, le christianisme était pratiquement invisible. Juste une petite secte juive qui se réunissait au fond des maisons, considérée comme étrange mais inoffensive, jusqu'à ce que le vent tourne. Un incendie commença près du Circus Maximus et, alimenté par l'été sec et des vents forts, échappa totalement à tout contrôle. Pendant 6 jours, Rome brûla. Le feu faisait fondre le bronze des statues et transformait les bâtiments en cheminées. Quand la fumée retomba, 10 des 14 quartiers de la ville s'étaient transformés en cendres et décombres. Le peuple était dans la rue, affamé, sans toit et furieux. Et le pire pour le gouvernement, une rumeur dangereuse commença à circuler selon laquelle l'empereur lui-même, Néron, aurait ordonné l'incendie pour faire de la place à son nouveau palais mégalomane. Néron, qui selon certains récits historiques, n'était même pas dans la ville quand le feu a commencé, perçut le danger. S'il ne trouvait pas un coupable rapidement, la foule retournerait sa fureur contre lui. Il avait besoin d'un bouc émissaire, un groupe isolé que personne ne défendrait. Les chrétiens, qui étaient déjà vus avec étrangeté pour avoir rejeté les festivals et les dieux romains, furent à la cible parfaite. Néron pointa du doigt et transforma cette minorité religieuse en terroriste d'État du jour au lendemain. Mais l'empereur commit une erreur de calcul brutale. Il ne voulait pas seulement les exécuter, il voulait transformer leur mort en spectacle politique. L'historien Tacite rapporte que des chrétiens furent couverts de peaux d'animaux pour être déchiquetés par des chiens ou utilisés comme torches humaines pour illuminer les jardins impériaux. Seulement la violence fut si exagérée, si sadique, que l'effet se retourna. Au lieu d'applaudir la justice, le peuple romain eut la nausée. La population commença à voir ces gens non pas comme des criminels dangereux, mais comme des victimes de la folie d'un dirigeant. Le plan de Néron échoua à nettoyer son image, mais réussit une chose. Il plaça une cible sur le dos de chaque chrétien. L'ordre maintenant était l'extermination totale. Pour ne pas être rayé de la carte, il devait continuer à opérer, mais sans être vu. Et cela créa un problème logistique impossible. Rome avait l'armée la plus létale du monde, mais fut vaincue par un dessein tracé dans la poussière. Et le secret de cette victoire n'était pas dans les épées, mais dans un code invisible. Mais comment organiser une résistance ou maintenir un mouvement vivant quand il y a des espions du gouvernement à chaque coin de rue et que la récompense pour votre tête paie 1 an de salaire d'un soldat? Rome n'avait pas de caméra de surveillance ou de traçage digital, mais elle avait quelque chose de peut-être pire, les délateurs. C'était un système officiel où voisins, commerçants et informateurs professionnels gagnaient une part substantielle des biens de toute personne qu'ils dénonçaient. La cupidité transforma chaque citoyen en policier potentiel. Un faux mouvement, une prière entendue à travers le mur fin d'un appartement, et la garde prétorienne enfonçait votre porte avant le dîner. Dans ce climat de paranoïa absolue, les synagogues fermèrent leurs portes aux chrétiens pour se protéger. Ils n'avaient pas de temple, pas de siège et le courrier romain était surveillé. Ils devaient se rencontrer pour survivre. Mais comment savoir qui était un frère dans la foi et qui était un espion déguisé prêt à vous livrer au lion? La tradition et les récits anciens suggèrent que la solution fut un système de cryptage analogique, tracé dans la poussière du sol. Vous marchez dans le marché bruyant de Trajan et vous croisez un inconnu. L'un d'eux, de façon décontractée, dessine un arc simple dans la terre avec la pointe de sa sandale. Si l'autre est un soldat ou un païen, il pensera que c'est juste un mouvement sans sens, un tic nerveux ou un jeu d'enfant. Mais si l'autre est chrétien, il complète le dessin avec l'arc opposé, formant la figure d'un poisson. Ce symbole, l'ichthys, fonctionnait comme un mot de passe militaire de reconnaissance. Les lettres du mot « poisson » en grec formaient l'acronyme pour Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Le génie n'était pas dans la théologie, mais dans la sécurité opérationnelle. Le dessin pouvait être effacé d'un simple glissement de pied en une seconde, sans laisser de preuves physiques. Cela permit la création d'un réseau décentralisé que Rome ne pouvait pas cartographier. L'Empire était habitué à écraser des armées visibles et brûler des temples de pierre. Mais maintenant, l'ennemi était fluide, invisible. S'ils arrêtaient un leader dans une maison, 10 autres cellules continuaient à opérer de l'autre côté du Tibre. Mais, même avec des codes secrets, ils avaient encore besoin d'un lieu physique pour se réunir en masse, sans être massacrés. Et ils trouvèrent le refuge parfait grâce à une faille dans la loi romaine elle-même. L'endroit le plus sûr pour un chrétien à Rome n'était pas un fort militaire. C'était un cimetière. Et la raison n'était pas religieuse, c'était une faille juridique que même l'empereur ne pouvait briser. Il existe un mythe populaire selon lequel ils vivaient là en dessous, cachés comme des fugitifs. La vérité historique est plus intelligente et stratégique. Les catacombes étaient des cimetières. Et par la loi romaine, tout lieu de sépulture était considéré comme territoire sacré et juridiquement inviolable. Même la redoutée garde prétorienne n'osait pas envahir un cimetière enregistré, par peur des malédictions et par respect de la loi des morts. Profitant de cette protection juridique, des fossoyeurs chrétiens, appelés fossors, commencèrent une œuvre d'ingénierie silencieuse. La géologie de Rome aida. Le sol est riche en tufs volcaniques, une roche tendre et facile à creuser, mais qui durcit au contact de l'air. Avec des pioches et des lampes à huile, ils ne firent pas seulement des tombes, ils créèrent des labyrinthes. Ce qu'ils construisirent défie l'ingénierie de l'époque, des réseaux de tunnels qui atteignent 5 étages de profondeur. On estime que, si nous étirions tous les couloirs des catacombes romaines, nous aurions des centaines de kilomètres de tunnels. Là, en dessous, entourés par les ossements des martyrs et protégés par un tabou religieux païen, les vivants célébraient la scène, réalisaient des funérailles et enseignaient aux nouveaux convertis juste sous les pieds des sénateurs qui voulaient leur tête. Ils utilisèrent la mort comme bouclier. L'endroit que les Romains évitaient par peur des fantômes devint le poumon de l'Église. Les murs étaient décorés non pas avec des scènes de guerre, mais avec des symboles d'espoir. L'ancre, le bon pasteur, le phénix. C'était une ville parallèle. Mais les murs de pierre et la loi des tombes ne protégeaient que contre les soldats et les lois humaines. Ils ne servaient à rien contre des ennemis microscopiques et invisibles. Quand une menace biologique commença à dévaster la population de la surface, la stratégie de se cacher cessa de fonctionner. Il dut ressortir du sous-sol et faire un choix qui semblait suicidaire, mais qui changerait l'histoire de la santé publique en Occident. Nous sommes en l'an 250. L'Empire affronte un ennemi qu'aucune épée ne peut tuer. Une peste si létale frappe Rome que des historiens de l'époque. Comme Ponce de Carthage, rapporte que 5000 personnes mouraient par jour rien que dans la capitale. La peste dite de Cyprien, probablement une fièvre hémorragique semblable à Ebola, transforma la ville en cimetière à ciel ouvert. Quand tout le monde, y compris les médecins, courait hors de la ville pour ne pas mourir, un groupe de personnes commença à courir vers l'intérieur. Et cette décision suicidaire changea la biologie de l'Europe. L'odeur de corps en décomposition dominait l'air. Face à des symptômes terrifiants comme des vomissements continus, une forte fièvre et la cécité, l'instinct humain de survie cria un seul ordre : fuyez ! C'est exactement ce que l'élite romaine, les médecins célèbres comme Galien lors de pestes antérieures, et même les prêtres des temples païens firent. La panique était telle que des familles entières allaient jusqu'à jeter des parents malades dans le caniveau, encore vivants, pour éviter la contagion à l'intérieur de la maison. Mais, tandis que la ville se vidait et que la société s'effondrait, les chrétiens marchaient dans la direction opposée, entrant dans les zones d'infection. Motivés par l'ordre d'aimer son prochain comme soi-même et par la croyance inébranlable que la mort physique n'était pas la fin, ils restèrent. Ils récupéraient des inconnus abandonnés dans les rues, nettoyèrent des plaies purulentes et, crucialement, donnèrent de l'eau et de la nourriture à ceux qui étaient trop faibles pour se lever. Le résultat biologique de ce choix théologique fut choquant. La science moderne sait que, lors d'épidémies anciennes, la cause de la mort n'était souvent pas le pathogène lui-même, mais la déshydratation sévère et le choc causé par l'abandon. En fournissant des soins de base, hydratation et hygiène, les chrétiens réduisirent drastiquement le taux de mortalité dans les communautés où ils agissaient. Les païens qui survécurent grâce à ces soins se réveillèrent devant leur vie aux athées que l'Empire ordonnait de tuer. Ils ne voyaient plus ces croyants comme des ennemis de l'État, mais comme des sauveurs. La charité vainquit la biologie. L'Église grandit exponentiellement justement quand le monde semblait finir, gagnant des milliers de convertis qui virent la foi en action. Voyant que la maladie ne les arrêtait pas et que leur popularité grandissait, Rome décida de revenir à son arme la plus terrible, la terreur psychologique dans l'arène. Le plan était de les humilier publiquement, mais le tir se retourna d'une façon qu'aucun empereur ne prévit. Le Colisée fut conçu pour humilier les chrétiens jusqu'à la mort. Mais cet après-midi-là, la machine de propagande de Rome se brisa. Au lieu de cris de terreur, le public vit quelque chose qui le laissa dans un silence absolu. L'objectif de l'État romain, là, n'était pas seulement l'exécution de criminels. C'était l'humiliation publique. Le scénario était clair. Montrer la peur dans les yeux des condamnés pour prouver que César était plus fort que n'importe quel dieu étranger. Le peuple allait là pour voir le triomphe de Rome sur ses ennemis. Mais quand les portes s'ouvraient et que les chrétiens entraient dans l'arène, le scénario impérial se brisait. Au lieu de cris de terreur, de panique et de supplications de miséricorde, le public voyait quelque chose de troublant. Des hommes et des femmes marchant calmement, souvent entonnant des chants, s'embrassant avant d'affronter les bêtes. Le cas de la jeune noble Perpétue, en l'an 203, est l'exemple parfait de cette faillite du système. Des récits de l'époque décrivent qu'elle entra dans l'arène avec une dignité qui embarrassa les bourreaux. Quand un gladiateur inexpérimenté trembla en devant l'exécuter avec l'épée, on dit qu'elle guida elle-même sa main jusqu'à son cou. Ce n'était pas de la résignation, c'était du défi. Le spectacle de la mort eut l'effet inverse. La foule, qui était venue voir la défaite d'une secte, sortit hypnotisée par ce courage illogique et surnaturel. L'écrivain Tertullien, observant cela, forgea la phrase célèbre « Le sang des martyrs est semence ». Chaque exécution publique servait, ironiquement, comme la plus grande campagne de marketing que le christianisme pouvait avoir. Les gens dans les gradins rentraient chez eux en se demandant « Quel type de force ou de certitude fait qu'une personne affronte lion et épée en souriant ?» La violence physique échoua à briser leur esprit. Pire, elle créait de la sympathie. L'élite romaine, frustrée, comprit qu'elle devait changer le champ de bataille. S'ils ne pouvaient vaincre par la peur ou par la mort, ils essaieraient de détruire la base morale du mouvement. C'est ainsi que commença ce qui peut être considéré comme la première campagne organisée de fausses nouvelles de l'histoire, conçue pour rendre le christianisme répugnant pour le citoyen ordinaire. Si vous arrêtiez un citoyen romain moyen dans la rue au IIe siècle et lui demandiez ce qu'il savait des chrétiens, la réponse serait grotesque. Il cracherait probablement par terre et dirait qu'ils étaient des monstres qui mangeaient des bébés dans des rituels secrets, commettaient l'inceste avec des membres de leur famille et, ironiquement, étaient des athées. La société romaine fonctionnait sur la base de l'honneur public et de la dignitas, et la réputation de l'Église était dans les ordures. Ces rumeurs ne naquirent pas de nulle part. C'étaient des distorsions malicieuses et calculées des rituels chrétiens faits à porte close. Quand ils entendaient que les chrétiens se réunissaient pour manger le corps et boire le sang de leur Dieu, l'esprit romain, littéral et superstitieux, comprenait cannibalisme infantile. Quand ils entendaient qu'ils s'appelaient frères et sœurs et échangeaient le baiser de paix, les ragots dans les rues transformaient cela en orgies incestueuses. Et comme ils refusaient de plier le genou devant les statues visibles des dieux et de l'empereur, ils reçurent l'étiquette d'athée, ennemi de l'ordre divin qui protégeait l'Empire. Le silence face à ces accusations cessa de fonctionner. Le leadership chrétien comprit que laisser le peuple croire qu'ils étaient des criminels moraux justifiait la violence de l'État. Alors, surgit une nouvelle classe de combattants qui n'utilisaient pas de boucliers, mais des arguments et des plumes. Des hommes cultivés, comme Justin Martyr, revêtirent le manteau de philosophe et commencèrent à écrire les fameuses « apologies ». Ils utilisèrent la logique et la rhétorique grecque elle-même pour démonter les accusations point par point. La contre-attaque fut brillante. Ils pointèrent l'hypocrisie romaine. Tandis que les nobles romains abandonnaient des nouveau-nés indésirés, spécialement les filles, dans les ordures ou dans la forêt, une pratique légale et commune à l'époque, les chrétiens récupéraient et élevaient ces enfants. L'argument était irréfutable. Qui valorisait le plus la vie? Qui étaient les vrais monstres? Peu à peu, l'élite intellectuelle fut forcée d'admettre que ces rebelles étaient, en fait, les citoyens les plus éthiques de l'Empire. Ils réussirent à nettoyer le nom de la communauté. Mais cette victoire de relations publiques apporta un problème logistique géant. Avec la réputation restaurée, le nombre de convertis explosa, amenant des milliers de veuves, d'orphelins et de chômeurs. Sans accès à l'argent public, l'Église risquait la faillite. Ils durent inventer un système économique révolutionnaire pour ne pas mourir de faim. Rome avait les meilleures armées du monde connues, des routes de pierre qui dureraient des millénaires et des aqueducs qui défiaient la gravité, mais n'avaient pas de sécurité sociale. La vie était brutale. Si un charpentier tombait d'un échafaudage et se cassait la jambe, ou si un soldat mourait en campagne laissant femme et enfants, le destin était la misère immédiate. Il n'existait pas d'assurance chômage ou d'aide du gouvernement. Le seul filet de sécurité était la famille. Et si vous n'en aviez pas une riche, le caniveau était votre fin. Dans ce vide de cruauté étatique, l'Église primitive construisit quelque chose que César n'avait jamais réussi, un réseau de protection totale. Le défi était immense. Avec la renommée de charité se répandant, la communauté attirait non seulement des convertis spirituels, mais les désespérés économiques, veuves, orphelins, esclaves malades, jetés par leurs maîtres et vieillards sans enfants. Cette masse de vulnérables aurait pu mener le mouvement à la faillite en semaines. Mais ils développèrent un système financier volontaire et extrêmement efficace. Au lieu d'impôts forcés collectés par des publicains corrompus, chaque membre contribuait avec ce qu'il pouvait à un fonds commun, administré avec rigueur par les diacres. Le philosophe Justin Martyr décrivit que ces dons n'étaient pas des frais d'entrée, mais des offrandes libres déposées pendant les réunions hebdomadaires. L'impact de cela fut bien au-delà de la charité. Se créa un État dans l'État. Un chrétien savait que, s'il perdait son emploi pour avoir refusé de sacrifier à l'empereur, ses enfants ne mourraient pas de faim. Cette sécurité économique généra une loyauté féroce qu'aucune légion romaine ne pouvait acheter avec des pièces d'argent. Pour le païen moyen, entrer dans l'Église signifiait garantie de survie physique. L'empereur Dioclétien, un stratège froid qui prit le pouvoir à la fin du IIIe siècle, regarda cette organisation et ne vit pas seulement de la religion, il vit de la concurrence. Il comprit que tuer des chrétiens aléatoirement était inutile, car leur réseau de soutien était incassable. Pour détruire le mouvement, ils devaient attaquer la source de leur culture, leur mémoire. L'ordre suivant ne fut pas contre les gens, mais contre le papier et l'encre qui maintenaient la foi vivante. En l'an 303 après Jésus-Christ, la tactique changea radicalement. Les coups à la porte au milieu de la nuit n'étaient plus seulement pour arrêter des gens, mais pour piller des bibliothèques. Les soldats romains fouillaient étagères, coffres et fonds secrets à la recherche de rouleaux de papyrus. L'empereur Dioclétien comprit que le christianisme était une religion basée sur des textes. La logique était implacable. Si vous éliminez le manuel d'instruction et leur histoire, le mouvement se dissout dans la confusion en une seule génération. Ce fut la première tentative systématique d'effacement culturel de l'histoire de l'Église, connue comme la Grande Persécution. L'ordre impérial était clair. Livrez les Écritures pour être brûlées en place publique ou soyez exécutés avec elles. Cela créa un dilemme psychologique terrifiant pour les leaders des communautés. Beaucoup d'évêques, sous la pointe de l'épée, cédèrent. Ils livrèrent les livres sacrés pour sauver leur propre peau et celle de leur congrégation. Ils devinrent connus comme traditors, la racine latine du mot traître que nous utilisons aujourd'hui. Cela généra une crise de confiance interne dévastatrice, divisant l'Église entre les purs qui résistèrent et ceux qui collaborèrent. Mais cette pression externe força la communauté à prendre une décision critique qui changerait la théologie pour toujours. À cette époque, il n'existait pas de Bible reliée comme aujourd'hui. Circulaient des dizaines de textes différents. Évangile de Thomas, Lettre de Clément, Apocalypse de Pierre. Quand vous devez choisir ce qu'il faut cacher, sachant que ce rouleau de textes peut être votre sentence de mort, vous devenez extrêmement sélectif. Personne ne risque son coup pour un livre qu'il trouve juste intéressant. Vous ne mourrez que pour ce que vous considérez non négociable. Le bûcher de Dioclétien fonctionna comme un filtre de purification involontaire. Les historiens observent que la persécution accéléra la définition du canon biblique. Les textes secondaires furent laissés en arrière ou livrés pour assouvir la fureur des soldats, tandis que les quatre évangiles et les lettres de Paul furent protégés avec du sang. La tentative de détruire la Bible finit par aider à la définir. Les textes sacrés furent sauvés, mais la structure humaine de l'Église était en lambeaux. Avec des leaders morts ou discrédités comme traîtres, ils avaient besoin d'une nouvelle organisation rigide pour ne pas imploser. Une armée sans général perd la guerre, peu importe combien de soldats elle a. Au début du IVe siècle, le christianisme faisait face exactement à ce scénario de cauchemar. Avec le leadership décimé par les exécutions et l'autorité morale de beaucoup d'évêques détruites pour avoir collaboré avec Rome, le mouvement risquait réellement de se fragmenter. La pression externe des légions était écrasante, mais le danger interne était encore plus létal. L'anarchie. Sans un leadership central clair, toute personne qui avait une vision mystique pouvait créer sa propre version de la foi. Dans un quartier, un groupe prêchait que Jésus n'eut jamais de corps physique. Dans l'autre, il rejetait tout le passé juif. La confusion doctrinale était telle qu'elle menaçait de défaire la résistance avant que les soldats romains aient la chance de finir le travail. Ils comprirent que survivre comme un réseau horizontal et démocratique d'églises domestiques n'était plus viable face à une attaque totale de l'État. Ils avaient besoin d'ordre, de discipline et d'une chaîne de commandement qui ne se briserait pas. La réponse à ce chaos ne fut pas de donner plus de liberté, mais d'imposer une rigidité presque militaire. Récupérant et fortifiant des idées de leaders antérieurs, comme Ignace d'Antioche, l'Église consolida le système connu comme monépiscopat. La règle devint simple et absolue. Une ville, un évêque. Fini l'autonomie des petits groupes isolés. Maintenant, chaque chrétien répondait à un prêtre, qui répondait directement à un évêque, qui détenait l'autorité finale sur la doctrine et les finances de cette région. Cette réorganisation transforma la communauté de foi en une institution robuste, reflétant l'efficacité administrative romaine elle-même. Si un leader était arrêté, la ligne de succession était déjà prête. Cette centralisation permit que la communication circule rapidement et que les divisions soient coupées à la racine. Ils résistèrent pendant 300 ans à tout ce que l'Empire jeta contre eux. Feu, lions, diffamation, peste et la tentative d'effacer leur mémoire. La communauté était épuisée, mais continuait debout. Personne, absolument personne, n'attendait que cette guerre séculaire se termine du jour au lendemain. Non pas à cause d'une révolte chrétienne, mais à cause d'un rêve étrange qu'un général païen eut la veille d'une bataille. La victoire finale n'arriva pas par une rébellion armée des chrétiens, mais par les mains d'un général romain ambitieux et désespéré. Nous sommes sur les rives boueuses du Tibre, en octobre de l'an 312. L'empereur Constantin était sur le point d'affronter une bataille décisive au pont Milvius contre son rival Maxence. C'était tout ou rien pour le contrôle de l'Occident. Et les chances n'étaient pas en sa faveur. Des récits postérieurs, popularisés par Eusèbe, disent que Constantin eut une vision. En regardant le ciel, il vit une croix de lumière et entendit la phrase « Avec ce signe, tu vaincras ». Cette nuit-là, soit parfois authentique ou par un calcul politique brillant pour motiver ses troupes avec un nouveau pouvoir divin, il ordonna que ses soldats peignent un symbole chrétien, le Chiro, sur leur bouclier. Le lendemain, contre toute probabilité militaire, la cavalerie de Constantin brisa les lignes ennemies et il gagna. L'année suivante, 313, Constantin signa l'édit de Milan. D'un simple trait de plume, la persécution qui dura des siècles prit fin. Les prisons furent ouvertes, les propriétés rendues, et le christianisme cessa d'être un crime. Cela semble un miracle divin classique. Mais si nous regardons avec froideur politique, nous voyons une autre couche. Constantin n'était pas naïf. Il perçut quelque chose que ses prédécesseurs ignorèrent. Le vieil empire païen se déchirait moralement et socialement, tandis que l'Église, avec sa hiérarchie rigide et son réseau de charité, était l'organisation la plus solide qui restait dans le monde antique. Cette alliance ne fut pas seulement spirituelle, ce fut un coup de survie pour l'État romain lui-même. L'empereur avait besoin d'une colle sociale pour maintenir l'Empire uni, et le christianisme offrait exactement cela. La religion qui commença avec des pêcheurs illettrés et survécut dans des catacombes obscures finit par occuper le trône des Césars. Ils vainquirent Rome, non pas en détruisant la ville, mais en l'occupant de l'intérieur, s'infiltrant dans chaque couche de la société jusqu'à devenir indispensable. Ils survécurent parce que, là où Rome offrait la peur, ils offraient l'espoir. Là où l'État offrait la mort dans l'arène, ils offraient un but. Ce fut la victoire de la résistance pacifique sur la force brute. Mais la fin de la persécution apporta un nouveau danger, peut-être plus grand que les lions, le confort du pouvoir. Beaucoup d'historiens argumentent qu'en se mariant avec l'État, l'Église gagna le monde, mais perdit une partie de son âme rebelle. Et vous, pensez-vous que le christianisme devint plus fort ou plus faible après être devenu la religion officielle?